Khaksamea, merci à tout le monde d'être venu. Puisqu'on m'a donné l'option d'être assis, je vais l'utiliser, après tout, pourquoi pas. Et j'aimerais vous parler ce soir d'un sujet qui a rapport au roi David. Le roi David étant le septième invité de la Souka, ce soir, c'est sa fête, et il y aurait donc beaucoup de choses à apprendre de notre roi. C'est ce que nous allons faire, mais je voudrais me concentrer sur un point qui me semble très important pour notre génération, c'est d'apprendre quelle est la conception de la morale selon un roi d'Israël, la morale davidique. Ceci est très important de nos jours parce que nous sommes, Baruch Hashem, nous vivons notre judaïsme au niveau d'un État, pas simplement au niveau d'une religion ou d'une individualité. Ce judaïsme vécu dans un cadre donc national, étatique, ce qu'on appelle en hébreu une malchoute, demande une réflexion plus profonde que ce que nous avons fait jusqu'à présent sur ce que c'est que la morale selon l'État d'Israël, selon le roi d'Israël. Rappelons une chose très importante, c'est que le roi David est le personnage central de toute la Bible. Si vous faites le compte des récits autour du roi David, ce que la Bible nous raconte de lui, alors vous découvrez que c'est le personnage dont on relate le plus de choses. On parle de sa vie d'un bout à l'autre, son œuvre gigantesque, le Tehillim, c'est quand même un livre très important de la piété juive. Et donc, c'est quelqu'un de très important. Je pense que, disons, à travers les événements de ces derniers jours, et en particulier l'heureux retour de notre fils à tous, Gilad Shalit, des questions d'ordre moral, la morale d'un État, se posent de manière encore plus aiguë. Et donc, je pense que c'est justement très bienvenu sur l'arrière-plan des événements de ces derniers jours, de se poser des questions fondamentales sur ce que c'est que la morale selon le roi d'Israël. Voilà, c'est à peu près, disons, le but de mon intervention. Il y a également, on peut dire dans la personnalité du roi David, quelque chose de très particulier, c'est que c'est une sorte de foyer. De foyer dans le sens d'un élément focalisant, c'est le cas de le dire, celui qui réunit en une seule personne tous les idéaux d'Israël. Ce n'est pas pour rien que c'est le septième, donc le dernier, donc l'aboutissement des Ushpizin, et que nous avons donc, dans le roi David, une sorte de miroir de l'ensemble des valeurs. Je voudrais citer à ce propos un midrash ramené par la Gemara, c'est que à la fin des temps, on nous raconte que viendra le moment de faire un grand festin pour les tzadikim. Et lors de ce festin, où seront invités tous les grands tzadikim de l'histoire, eh bien, viendra le moment de faire le zimoun. Et le zimoun se fait sur une coupe de vin. Et Akadosh Baruch Hu dira à Abraham, « Bechavod, c'est toi qui fais le zimoun, c'est toi qui fais la bracha. » Et Abraham dira, « Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai donné naissance à Ishmaël. » Effectivement, c'est assez grave. Et bon, il demande alors à Yitzhak, est-ce que tu peux pas faire toi ? Il dit, je peux pas, j'ai donné naissance à Esav, je peux pas. Et alors, et toi, Yaakov ? Ben, j'ai épousé deux sœurs. C'est vrai que c'était permis à l'époque, mais la Torah allait l'interdire plus tard. Alors ça fait désordre, je peux pas. Et alors, et Moshe, Aaron, vous voulez pas ? Non, on n'est pas rentré en Eretz Israël. Ah, bon. Et alors peut-être Yehoshua. Yehoshua bin Nun, qui est rentré lui en Eretz Israël. Yehoshua dit non, je ne peux pas parce que je n'ai pas eu de postérité masculine et donc je n'ai pas eu d'héritier de mon statut de roi, donc je ne peux pas. Et donc ce qui reste finalement, c'est le roi David. Et le roi David prend l'initiative, il dit Ani avarech velinael evarech. C'est moi qui va faire la bénédiction et cela me va bien. Chez Nehemar, Kos Yeshuot, et ça, ou Veshem Hashem Ekra, ainsi qu'il est dit, je vais lever la coupe de la délivrance et invoquer le don de l'Éternel. C'est intéressant parce que On s'attendrait à ce que le roi David aussi dise qu'il a des petits problèmes, de, quelque part. L'histoire de Bathsheba, tout ça. Il y a des problèmes. Mais il semblerait que le roi David est tout à fait conscient que ça ne fait aucun problème. Il est, lui, le personnage représentatif de ce qu'il y a de meilleur dans l'être d'Israël. Et donc, c'est lui qui est le réceptacle de la bénédiction, comme on dit, « Kos machazik beracha ». Et il faudrait comprendre donc de quoi il s'agit. Tout d'abord, rappelons-nous que le roi David est un roi. Un roi, c'est un chef d'État. Mais ce n'est pas un simple chef d'État, c'est pas la Suisse, c'est les Hébreux de l'Antiquité. Et les Hébreux de l'Antiquité sont occupés à faire la guerre. Quand on fait le résumé de ce que le roi David a fait dans sa vie, eh bien, on voit qu'il a dirigé. Dis-leur la papier. Bon, ça. On voit que le roi David a participé personnellement à 18 guerres dans sa vie, ce qui est assez énorme. Et c'est pas si simple d'être un homme de guerre et à la fois un homme saint. Il faut pour cela une grandeur d'âme assez particulière. Et disons que il est très tentant d'agir toujours en fonction de ce qu'on appelle Midat HaRachamim, la miséricorde. C'est-à-dire, le cœur des Juifs est un cœur miséricordieux. C'est un cœur plein de bonté. Et c'est très agréable. Les Juifs adorent donner, adorent renoncer pour l'autre. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est les Juifs qui ont inventé la morale chrétienne. Non seulement c'est eux qui l'ont inventée, mais ce sont les seuls à l'avoir appliquée. Et donc, on peut s'imaginer que le roi David aussi était quelqu'un du même genre, c'est-à-dire quelqu'un qui, de par sa nature, certainement, aimait être miséricordieux, charitable. Et nous avons pour ça d'ailleurs un modèle dans la Torah, c'est ce qu'on appelle les midot harachamim, qu'on a l'habitude de dire, shlosh esri midot harachamim, les 13 attributs de miséricorde que vous connaissez, el rachum vechanun, erechapaim vrafhesed vehemet, et tout le reste. Vous savez comment est-ce qu'on compte les 13 attributs? Parce que c'est pas facile, on dit qu'il y en a 13, mais essayez de voir dans le texte si ça fait vraiment 13, vous verrez que c'est pas si simple. Il y a différentes opinions chez nos maîtres pour savoir comment est-ce qu'on compte les 13 attributs. Le nombre des opinions est 13, c'est-à-dire il y a 13 manières de compter les 13 attributs. Mais je voudrais m'arrêter sur une des interprétations, celle de Maïmonide dans le Guide des Égarés, dans le Moré des Vouchim. Et Maïmonide est très surprenant, il dit qu'en fait, il y a 12 attributs de miséricorde et un de rigueur. Donc, Midat HaRachamim a 12 mesures, mais vous avez Midat HaDin, la rigueur, qui a également une Mida, et c'est Venake lo yenake. Ou bien Poked Avon Avot Albanim, ça dépend des passages dans Maïmonide, mais en tout cas, il y a dans les attributs de miséricorde, il y a un élément, 1 sur 13, mais qui est la Midat HaDin. Et alors, ça change beaucoup toute l'optique de la manière dont le Créateur dirige sa création. D'ailleurs, où est-ce qu'ils apparaissent, ces 13 attributs? Je crois qu'ils apparaissent dans le livre de Shemot, lors de l'invocation, la supplique de Moshe, lorsque Dieu veut abandonner Israël, enfin fait semblant de vouloir abandonner Israël à cause du veau d'or. Et alors Moshe dit à Dieu, écoute, pardonne-nous quand même, on est quand même sympa, fait pour nos ancêtres. D'accord, je suis d'accord. Mais, dit Dieu, je vais envoyer pour diriger le peuple un ange. J'arrête de vous diriger et j'envoie un ange. Et alors la réaction, je ne sais pas, si vous regardez dans le texte, c'est très surprenant parce que Moshe fait le vexé, fait la personne, c'est fini là-bas dans le coin. Ouais. Et alors Moshe fait le vexé, genre, ah bon, tu envoies un ange et alors, et moi, je ne suffis pas alors? C'est vrai, bon, si la Shekhina ne veut pas venir, mais Moshe fait très bien l'affaire, alors pourquoi envoyer un ange à la place? Et en plus de ça, Moshe dit, mais en plus de ça, j'aimerais bien que tu me dises comment est-ce que tu diriges ton monde. Hodi'enina et derachecha. Explique-moi tes cheminements. Ur'eh ki amcha agoy azeh. Vois qu'il y a ce, ton peuple, cette nation-là, qu'il faut diriger. Et au moment où donc Moshe demande à Akadosh Baruch Hu de lui révéler le secret du gouvernement des nations, Akadosh Baruch Hu lui révèle les 13 midot. C'est-à-dire que les 13 midot, et ça Maïmonide a très bien compris, ce sont les midot du dirigeant politique. Et le dirigeant politique, dit Maïmonide, doit en majorité se comporter de manière charitable, puisqu'il y a 12 midot à Rahamim, mais il doit également avoir un comportement de midatadine, de rigueur, parce que sinon l'État ne tiendra pas. Il dit, c'est la raison pour laquelle c'est les rois d'Israël qui emploient la midatadine dans les guerres. Il y a à ce propos un enseignement très intéressant de Rabbi Avraham Ibn Ezra, à propos du verset « Ubo tidbak ». Et tu seras attaché à lui. Il faut adhérer à Dieu. Les Chachamim ont dit dans la Michilta, c'est quoi adhérer à Dieu? Eh bien, c'est lui ressembler dans les Midot. Ma'o rachum afata rachum, ma'o hanun afata hanun. De même que Dieu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Et pourtant, Rabbi Avraham ben Ezra, qui connaît cet enseignement, nous dit Zesod gadol. C'est un grand secret. Ah bon? Mais quel est le grand secret selon Rabbi Avraham ben Ezra? Eh bien, les commentateurs de Rabbi Avraham ibn Ezra nous disent que le secret dont il parle, c'est que c'est, on ne peut pas toujours savoir, c'est un secret. Il faut connaître le secret pour savoir quand est-ce que on doit se comporter selon la Midat HaRachamim et quand est-ce qu'il faut se comporter selon la Midat HaDin. C'est-à-dire la proportion entre la miséricorde et la rigueur, c'est ça qui fait l'épreuve de l'homme politique. Eh bien, c'est ce secret-là que connaissait le roi David. Eh bien, en fait, ça revient au fondement de la morale selon Israël. Le fondement de la morale selon Israël, c'est Manitou qui l'enseignait très souvent dans ses formulations limpides, c'est ce qu'on appelle Yehud Amidot, en français l'unité des valeurs. C'est-à-dire une morale qui serait basée entièrement sur la rigueur ou entièrement sur la miséricorde ne serait pas la morale d'Israël, n'est pas une vraie morale, c'est une forme d'idolâtrie. Et c'est important de le comprendre parce que de nos jours, influencés que nous sommes par le fond de christianisme de la culture occidentale, on considère que c'est la charité qui est identique à la morale et que faire la justice, c'est une nécessité non blâmable. C'est-à-dire que faire la justice ou même la vengeance est quelque chose de dépréciable, mais que faire? On ne peut pas faire autrement. On entend souvent, d'ailleurs, des hommes politiques israéliens ou bien des chefs militaires israéliens dire qu'il faut faire la part de la morale et des nécessités de la sécurité. Comme si veiller à la sécurité des citoyens ne faisait pas partie de la morale. Il faut bien comprendre l'arrière-plan théorique de cela, c'est qu'on considère que la justice ne fait pas partie des valeurs morales. Et le grand chidouche, on pourrait dire, dans la civilisation dans laquelle nous vivons, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de sens à la charité si celle-ci n'est pas associée à la morale, et n'est pas associée à la justice, et c'est cela que le roi David faisait. Excusez-moi. Il y a un texte dans le traité de Sanhédrin, dans la Gemara, qui nous parle de la manière dont le roi David gouvernait son peuple. Et le Talmud nous dit, le verset tout d'abord nous dit « Vayehi David ose mishpat utzdaka lechol amo » David faisait la justice et la charité pour tout son peuple. Alors, objection immédiate du Talmud « Im mishpat en tzedaka, im tzedaka en mishpat » S'il faisait la justice, il ne pouvait donc pas faire la charité. Et s'il faisait la charité, il ne pouvait pas faire la justice. Parce que quand on fait la justice, on fait le droit, et donc la personne coupable subit le châtiment, doit payer sa peine, et la personne à qui le bon droit revient gagne. Tandis que quand il y a charité, eh bien, on a renoncé à la justice. Donc on ne peut pas faire à la fois la justice et la charité. Comment est-ce que le roi David pouvait faire à la fois la justice et la charité? Eh bien, le Talmud nous donne trois réponses différentes. Et ces trois réponses représentent différents états de la société. La première réponse, c'est que le roi David faisait d'abord la justice. C'est-à-dire quand il rendait un jugement au tribunal, tribunal du roi, eh bien, il déclarait « Monsieur un tel est coupable et monsieur un tel est innocent ». Le résultat, c'est le coupable devait payer, par exemple, de sa poche ce qu'il fallait payer. Et donc, on avait fait la justice. Mais, étant donné que le coupable n'avait pas de quoi payer, alors David sortait de sa propre poche la somme nécessaire et la donnait en charité au coupable pour qu'il puisse payer. Bon, c'est sympathique, il y a vraiment tzedaka, il y a vraiment mishpat, il y a vraiment donc charité, il y a vraiment justice. Il y a un petit problème, c'est que ce n'est pas simultané. Au moment de la justice, il n'y a pas de charité. Au moment de la charité, il n'y a pas de justice. Mais le verset nous a dit qu'il faisait la charité et la justice. Ça suppose que ça se faisait ensemble. Alors la deuxième réponse qui est proposée à cause de cela par le Talmud, c'est que David faisait ce qu'on appelle pshara, c'est-à-dire un compromis. Il faisait un compromis, il tendait au compromis entre les parties. Alors, dans le compromis, il y a effectivement les deux éléments. Étant donné que le compromis est proposé et imposé finalement par le tribunal, ça fait partie donc de la justice. C'est du judiciaire. D'un autre côté, étant donné qu'on n'a pas appliqué toute la rigueur du droit, c'est quand même de la charité. Donc, c'est simultané. Mais, il y a un problème. C'est que le compromis, ce n'est pas vraiment de la charité totale. Ce n'est pas non plus de la justice totale. C'est quelque chose, comme on dit en bon arabe, « nishtahin, nishtaher », c'est-à-dire « ni là, ni là ». Et donc, le Talmud donne une troisième réponse. La troisième réponse, comment est-ce que le roi David faisait la justice et la charité? Eh bien, il faisait la justice. Il disait « un tel, tu es coupable, tu dois payer tant ». Et la personne qui avait été déclarée coupable était heureuse et considérait qu'on lui avait fait un acte de charité puisqu'on l'avait sauvé du vol. C'est-à-dire que la charité était identique à la justice, elle était simultanée et totale. Mais ça suppose un état de conscience morale très élevé dans la société, à tel point que la personne qui se sait coupable est heureuse d'avoir été condamnée. Or, ça, ce n'est pas du tout évident, ça peut être exploité par des régimes totalitaires, mais dans un état de morale, de moralité élevée de la société, alors il y a identité totale des valeurs. C'est-à-dire que la midata chesed et la midata din sont en fait la même mida. La rigueur et la charité sont finalement et la même valeur. En tout cas, ce que ce passage du Talmud, qui est un passage extraordinaire, veut exprimer, c'est que l'idéal moral d'Israël, c'est l'unité des valeurs. Alors évidemment, pour y arriver, il faut passer par des phases intermédiaires. Il y a parfois des mélanges hétérogènes de justice et de charité. Et ça demande parfois justement d'être parfois un peu froid. Il y a dans le gouvernement politique une certaine froideur du dirigeant, qui fait qu'il doit être indifférent à l'émotion du moment. C'est pour cela qu'il est dit, mais c'est simplement parce que la royauté d'Israël est une royauté qui prend en considération essentiellement l'éternité plutôt que les nécessités du moment. C'est pour cela qu'il est dit, on dit ça dans la bénédiction de Birkat Alevana pour la lune, quand on dit David, Melech Israël, Hay veKayam, David, roi d'Israël, est vivant et fidèle. Kayam, ça veut dire en hébreu ancien, ça veut dire fidèle. Ça veut dire que le roi David a pour idéal une politique qui, disons, dans l'immédiat pourra être considérée comme un échec, mais qui finalement investi dans
l'Éternel. Il y a chez le roi David également, là je voudrais faire disons une sorte de revue de ce que nous avons à apprendre de lui, c'est que l'idéal moral est accompli à travers la conquête des rêves d'Israël. Le Zohar nous dit quelque chose de très surprenant. C'est que Abraham était un homme d'une très grande modestie, puisqu'il a pu dire « Ve'anochi afar va'efer »« Moi, je suis poussière et cendre. » Mais le Zohar dit « Cette modestie n'est pas une vraie modestie, parce qu'elle suppose que Abraham se considérait quand même comme quelque chose, comme de la cendre. La cendre, c'est quand même quelque chose. » Et donc, il est dépassé dans sa modestie par celle de Moshe, puisque Moshe disait « Venachnu ma, que sommes-nous ?»« Que sommes-nous ?» Donc, ça suppose « Nous ne sommes rien. » Mais c'est quand même formulé, dit le Zohar, sous forme de question. C'est vrai que c'est une question rhétorique. « Que sommes-nous ?» Ça veut dire « Nous ne sommes rien. » Mais dans la formulation de Moshe, il reste quand même un doute. Et le Zohar nous dit, Moshe était dépassé par le roi David, qui était encore plus modeste que Moshe. Puisque David a pu dire, « Ve'anochi tola'at ve'lo'ish, herpat adam uvzuyam, moi je suis un vermisseau, je ne suis plus un homme. » C'est-à-dire qu'il a perdu son être, totalement. Et donc le roi David était plus grand que Moshe. Alors vous allez tout de suite me dire, « Oui, mais c'est pas possible, puisque la Torah dit que Moshe était le plus humble des hommes. » Oui, on dit ça. Moshe était le plus humble des hommes. Bon, on peut dire que le Zohar, il peut se permettre de ne pas être d'accord avec Moshe, puisqu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a eu des révélations plus grandes que celles de Moshe. Non, mais je pense que c'est ça la bonne réponse. La réponse est tout simple. C'est Moshe était plus grand virtuellement en modestie que le roi David, mais cette modestie ne pouvait pas se manifester puisqu'elle n'était pas encore en Eretz Israël. C'est-à-dire que Moshe, en tant que dirigeant du peuple, en galoute, était obligé d'avoir un comportement de hauteur par rapport à son peuple, tandis que le roi David, qui vivait en Eretz Israël, est dans le lieu naturel de la malchoute, et donc il pouvait se permettre une modestie totale, et en cela, il était le plus grand, moralement, de tous nos maîtres, de tous nos ancêtres. Rappelez-vous que nous avons dans la liste des sept ouchpizines, vous avez les trois premiers, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les fondateurs de notre peuple. Tandis que vous avez les deux après, qui sont Moshe et Aaron, qui sont ceux qui nous ont donné la Torah. Et à la fin, vous avez Yosef et David, qui sont les archétypes de deux messianismes, celui de Ben Yosef et celui de Ben David, qui nous donnent Eretz Israël. C'est-à-dire, on ne peut parler de plénitude de la présence de la Shekhina dans la Souka, par exemple, que si nous avons les trois éléments, Am Israël, par Abraham, Yitzhak et Yaakov, la Torah, par Moshe et Aaron, et Eretz Israël, par Yosef et David. Si on résume ça en trois personnes, vous avez Yaakov, Moshe et David, et Manitou aimait rappeler une guématria découverte par le Ben Ishraï, qui est que Yaakov, Moshe et David font ensemble en guématria la même valeur que le mot Israël. C'est-à-dire que Israël, véritablement, c'est Am, Eretz et Torah. Mais ça, l'aboutissement de la morale n'est possible que s'il s'est mis à l'épreuve de Eretz. C'est-à-dire parler de moralité en dehors du cadre étatique, en dehors de la terre d'Israël, c'est rester encore dans le théorique. Et tant que c'est dans le théorique, rien n'est prouvé. Par exemple, je vais vous dire, pendant 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, nous étions en exil. Il y avait un dialogue, disons, non formulé, mais qui existait entre Israël et les nations. Dans ce dialogue, les Juifs qui vivaient dans leur ghetto, à l'abri des responsabilités politiques, pourrait-on dire, mais non pas à l'abri des persécutions, les Juifs étaient le peuple le plus moral du monde. C'était extraordinaire. Il suffisait de rentrer dans un ghetto pour se rendre compte que les Juifs étaient des gens extraordinaires. Et donc, il y avait une sorte de critique sourde, mais une critique quand même, des Juifs envers les goyims. Nous disions aux nations, vous vous comportez mal. Les nations comprenaient très bien le message,
Mais pour tout vous dire, elles n'en avaient rien à faire. Parce qu'elles se disaient, oui, les Juifs peuvent se permettre de nous donner des leçons de morale parce qu'ils n'ont pas les responsabilités politiques que nous avons. S'ils avaient un État, alors on les verrait, ils seraient pires que nous. Et donc, avec une bonne conscience, les goyim continuaient à diriger le monde et les Juifs à donner des leçons de morale. Et puis, un beau jour, les Juifs ont fondé un État. Catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Se disent les nations. Si les Juifs, non seulement ont un État, mais sont capables de le conduire selon des critères de moralité, alors ça va nous mettre, nous autres les goyim, en accusation. Terrible. Et donc, on comprend que depuis des dizaines d'années, il y a un effort énorme qui est investi par les nations, entre autres dans les médias, pour prouver une seule chose, c'est que l'État d'Israël est un État méchant. C'est-à-dire, on fait tout pour prouver que l'État, qui est en fait l'État le plus moral du monde, et ça je suis prêt à assumer la défense de l'État d'Israël, cet État qui est l'État le plus moral du monde est présenté par la presse internationale comme le pire des États du monde. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est parce qu'on comprend qu'il y a ici un message moral à un niveau étatique qui est la véritable épreuve de la morale. Maintenant, comment est-ce qu'on met en accusation Israël? Eh bien, en lui disant, mais vous n'avez pas le droit de faire la justice. Dès que vous faites la justice, alors vous êtes sorti de la moralité. C'est donc qu'ils n'ont pas compris l'unité des valeurs qui a été enseignée par notre maître, le roi David. Alors là, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Le roi David ne se contentait pas de diriger l'État, il faisait la guerre. Or, la guerre, c'est l'épreuve morale par excellence. Comment est-ce qu'on fait la guerre? Il y a une expression inventée par les nations européennes, à la guerre comme à la guerre. Vous connaissez cette expression? Cette expression est extrêmement grave. Parce qu'elle veut dire que la guerre serait une parenthèse de la moralité. Et en fait, je pense que quand on lit la littérature de la halakha concernant la guerre, on se rend compte, et nous avons appris beaucoup de règles concernant la guerre du roi David, on se rend compte qu'il y a des règles de la guerre, des règles morales. Évidemment, la guerre impose une application de la morale qui est différente de celle des relations entre individus qui sont en conflit. Mais ça reste quand même dirigé par des critères moraux. Et je voudrais rapporter à ce propos une correspondance entre un élève du Rav Kook et le Rav Kook. L'élève était le Rav Moshe Zeidel, qui par la suite est devenu docteur Moshe Zeidel, qui était un jeune étudiant de yeshiva en Lituanie, à Telz, dans la yeshiva de Telz, et qui se posait des questions d'ordre métaphysique et moral. Et comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait étudier ces choses-là, eh bien, il entretenait une correspondance très élaborée avec le Rav Kook. Et dans une de ses épîtres, il interroge le Rav Kook sur la cruauté des guerres d'Israël. Voilà. Dans les guerres telles qu'elles sont menées aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique dans la Bible, sont des guerres terribles. Et je voudrais ici vous lire un petit passage du Rav Kook dans lequel il parle de cela. Je vais vous lire en hébreu mes traductions presque simultanées. Ça vaut la peine. Ve'inyane amilchamot. Pour ce qui concerne les guerres, c'est dans Igrot Riya, dans le premier volume, à la page Kouf. Ve'inyane amilchamot. Pour ce qui est des guerres. Yefshar ayaklal. Il était absolument impossible. À l'époque où nos voisins étaient des loups sauvages. Il y avait une époque comme ça, où les voisins d'Israël étaient des loups sauvages, dit le Rav Kook. Sherak Israël, lo yilachem. Il était impossible que seul Israël ne soit pas le seul à guerroyer. שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאיריתם, parce qu'alors on aurait détruit leur reste. Ve'ad rabba, et bien au contraire, haya mukhrach meod, il était absolument nécessaire, gam le'apil pahad al ha'peraim, al yedei hanhagot achzariyot, il était absolument nécessaire d'imposer la terreur sur les sauvages par des comportements de cruauté. Rak, parce que quand on est dans la jungle, si on ne se comporte pas comme un loup, ben on est dévoré. Ce qui explique donc la cruauté des guerres telles qu'elles sont menées dans la Bible. Mais vous voyez bien qu'à nouveau, il y a ici une considération d'ordre moral, ce qu'on appelle la réciprocité. C'est-à-dire, l'état, la manière dont une guerre sera menée sera fonction de la sauvagerie de l'adversaire. Rak im tzipia le'avi et ha'enoshiyut lema she'itzricha liyot, avec l'espérance d'amener l'humanité à ce qu'elle doit être. Aval lo litrok et ha'sha'a, mais ne pas essayer d'avancer l'heure. Veda, sache, she'bilchot ha'tzibur, que dans les règles concernant la collectivité, lo ichmira Torah klal litrok et ruach ha'am liyachasidut, la Torah n'a pas encourager le peuple à se comporter de manière charitable. Mipne she'az haita hasidut haklalit na'aset derer keva vechova. Parce que dans ce cas-là, la vertu collective serait devenue quelque chose de fixe et d'obligatoire. Vetachlit haTorah, mais l'intention de la Torah, ish etikava ha'ara ha'sichlit bekoach ha'ava undava, c'est que l'impératif moral soit fixé de manière volontaire. Vezeu yesod shel kama kulot shesh bedin Torah biyachas lesidrei hamilchamot, et ça explique pourquoi est-ce que la Torah a été si lâche à propos des guerres. Là je saute une petite ligne parce que ça prendrait trop de temps. ומובן שמכל מקום היה הדבר מסור לבדין לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא. Et il reste, mais sans aucun doute, cela dépendait de la décision du tribunal, c'est-à-dire du grand Sanhédrin, de considérer l'état de dégradation morale de telle ou telle idolâtrie. Ve'lo hayu kol ha'inyanim shavim, et tout n'était pas égal. Donc, ce que nous dit le Rav Kook, c'est que un des grands enseignements de la moralité en matière de politique, c'est un impératif moral de s'abaisser au niveau de nos ennemis. Hier, souvent on dit, nous n'allons pas nous abaisser à tel niveau. Alors évidemment, il ne faut pas s'abaisser dans l'identification à la bassesse. Vous savez que il y a un... Mais au niveau pratique, cela doit être fait. Il y a un texte assez intéressant qui pose question chez Maïmonide. Tout d'abord, avant Maïmonide, passons d'abord à un verset des Chroniques dans Divrei Hayamim. Dans Divrei Hayamim, le roi David demande au prophète Nathan, pourquoi est-ce que je ne peux pas construire le Beit HaMikdash ? Et le prophète Nathan lui dit, c'est parce que tu as versé beaucoup de sang. Mais là-bas, l'expression, c'est « tu as versé beaucoup de sang devant moi », à la manière dont c'est dit pour un... Ah, merci.
Au cas où.
Non, c'est congé. Pour un corban, pour un sacrifice. Et Maïmonide nous explique, dans le Shmoné Prakim, dans l'introduction à Maseret Avot, que le roi David n'était pas totalement équilibré dans ses vertus, puisqu'il avait une tendance, quand même, à la cruauté, achzarit. Il avait quelque chose en lui d'un peu cruel. Mais tout de suite, Maïmonide dit, bien qu'il ait bien fait de faire ce qu'il a fait, il avait raison de se comporter de la manière dont il s'est comporté, parce que les ennemis étaient des ennemis terribles, il fallait leur faire peur, il fallait les abattre, etc. Mais il y avait chez David une molécule d'identification avec la cruauté, C'est pour ça qu'il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. Alors faites bien attention, ce n'est pas parce qu'il a employé les armes qu'il est disqualifié pour construire le Beth Amikdash, parce qu'employer les armes, c'est une mitzvah. On ne peut pas être puni pour avoir accompli une mitzvah. Mais c'était au niveau de l'identification interne, son adhésion à cela. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a tout un travail à morale à faire qui est, d'une part, de s'abaisser au niveau de ses ennemis au plan pratique et de rester dans la pureté morale au niveau des valeurs. Et je pense que c'est un des grands enseignements qu'on aurait besoin d'apprendre à Tzahar. D'ailleurs, vous voyez bien que le roi David lui-même était conscient de ce qu'il faisait, puisque dans sa lutte contre Goliath, au moment d'affronter le géant, il lui dit « Toi, tu viens avec ton épée et ton bouclier, et moi, je viens avec ma fronde. » Non, il ne dit pas ça. Il aurait pu dire « Voilà, toi, tu emploies des armes lourdes, et moi, j'emploie des armes légères. » Il dit « Non, toi, tu viens avec tes armes, et moi, je viens au nom du Dieu que tu as blasphémé. » C'est-à-dire, je viens au nom des valeurs que tu viens renier, que tu attaques. Quand on vient au nom de valeur, alors on a la capacité également de vaincre à la guerre. Je voudrais parler également d'autre chose que nous avons appris du roi David. Le roi David était un roi. Et un roi, ça se comporte selon un régime qu'on appelle en français la monarchie. La monarchie, c'est autre chose que ce qu'on appelle le parlementarisme ou la démocratie, etc. Et donc on pourrait se demander, est-ce que la vocation d'Israël serait de rétablir un régime monarchique ou un absolutisme ou d'autres choses de ce genre? Alors remarquez ce que dit le prophète Ézéchiel à ce propos. Le prophète Ézéchiel, quand il nous parle de la réunion des enfants d'Israël en Eretz Israël à la fin des temps, de la réconciliation entre Yehuda et Ephraïm, il nous dit « Uvikshu et Hashem Elohim ve David Malkam » Ils demanderont l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu leur donne? Il me dit « Voilà, ben je vais régner sur eux, puisqu'ils ont demandé que je règne, je régnerai. « Ve David avdi, quant à David, mon serviteur, nasi laem leolam, il sera porté par eux pour tout jamais. » C'est-à-dire le mot « nasi », qu'on traduit aujourd'hui par « président », ça veut dire « celui qui est porté par la masse ». C'est-à-dire que l'autorité ne réside pas dans le roi David, l'autorité réside dans le peuple qui veut bien le mettre à sa tête. Ce qui explique pourquoi dans le Talmud, vous avez un texte assez surprenant, celui dans Maseret Sanhedrin, page Tzadikret Amoud Bet, 98b, où il y a un des sages du Talmud, Rabbi Hillel, ce n'est pas Hillel l'Ancien, c'est un autre, un rabbi beaucoup plus tardif, qui, Rabbi Hillel, dit « El lahem Mashiach li Israël, Israël n'aura pas de Mashiach. » Ah bon? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël ne serait pas sauvé, quoi? Rabbi Hillel tendrait vers le christianisme, qui affirmerait que la rédemption d'Israël, c'est fini? Non. Alors, Rashi nous explique que Rabbi Hillel pensait qu'Israël serait sauvé, mais qu'il n'y aurait pas de roi. Un peu ce qui se passe de nos jours. Israël est sauvé, mais il n'y a pas de roi. Alors, le Talmud réfute l'opinion de Rabbi Hillel et dit « Non, non, pas du tout, il s'est trompé complètement, que Dieu lui pardonne, dit le Talmud. « Charé les marais, que Dieu pardonne à Rabbi Hillel d'avoir dit une chose pareille. » Et pourquoi est-ce qu'il a tort? Parce que le verset dans Zechariah dit en toutes lettres qu'il y aura un roi. « Iné malker yavolach »« Voici que ton roi vient à toi. » Donc il a tort, il y aura un roi. Le Rav Kook explique qu'en fait Rabbi Hillel avait une intuition qui était juste. C'était quoi l'intuition de Rabbi Hillel? C'est que avoir un monarque à la tête de la nation, c'est nécessaire pour une nation au stade infantile, enfantin ou infantile, comme vous voulez. En tout cas, c'est-à-dire pour une nation qui est encore dans les langes au niveau de son organisation sociale, qui a besoin d'être menée comme un enfant par un adulte. Mais plus la société devient adulte, moins elle a besoin d'être menée. Mais en quoi est-ce que Rabbi Hillel se trompait? Eh bien, il se trompait pour une chose très importante. C'est qu'il a oublié que toutes les espérances du peuple juif ont été focalisées pendant des générations et des générations autour de la famille du roi David. Et donc, supprimer la royauté de David totalement, ça serait comme enlever la cerise sur la crème chantilly ou la crème sur une religieuse, vous vous rendrez compte. Alors, c'est absolument insupportable. Et donc, c'est le Rav Kook, on ne peut pas ôter de la société d'Israël la couronne du roi David. Évidemment, ce n'est pas que le roi sera autoritaire, il sera comme un vieillard qui est le père de toute la famille et dont le fils est honoré de sa présence. Il dit, voilà, papa, c'est toi qui vas diriger le repas. Alors, pour faire honneur à son fils, il dirige la soirée. Mais en fait, tout le monde sait très bien qu'on n'a pas vraiment besoin qu'il nous donne des instructions. C'est comme ça le Mashiach pour le Rav Kook. C'est un peu à la manière de la reine d'Angleterre. Oui, c'est un peu surprenant, mais enfin, ça brise certaines images d'Épinal. Il y a aussi quelque chose de remarquable dans la manière dont la famille du roi David considère la relation entre la conduite de l'État et les problèmes personnels. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure. Vous vous rappelez que le roi David avait une histoire personnelle assez compliquée, l'histoire de Bathsheba, qui mériterait une étude de tout un cours. Mais vous connaissez le passage du Talmud qui dit qu'on ne peut pas dire que le roi David a péché, mais comment? Alors, le prophète Nathan dit qu'il a vraiment péché, alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas péché? Est-ce que le prophète Nathan n'a pas lu la Guémara? Mais enfin, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Je voudrais simplement ici m'arrêter sur l'enseignement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous dit que, bon, vous savez que la Guémara explique pourquoi est-ce que David n'a pas péché. Parce que, en vérité, Bathsheba n'était pas mariée. Elle était divorcée. Et pourquoi est-ce que David n'a pas été coupable de la mort d'Uriah? Bien parce que Uriah préparait une révolte. Et donc le roi avait le devoir de le tuer. Donc en fait tout se passe très bien. Vous comprenez? Donc Uriah qui fait la révolte est condamné à mort par le roi David. Et puis pour s'occuper de rétablir la position sociale de la veuve, eh bien le roi l'épouse. C'est extraordinaire. Bon, donc tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'il veut alors le prophète Nathan? Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Il dit, parce que c'est mal fait. Ça ne se fait pas comme ça. Tu aurais dû le faire de manière ouverte, tu aurais dû juger Uriah, et tu aurais dû attendre que Uriah soit mort pour que tout le monde sache bien qu'elle n'est pas mariée, etc., etc. Mais je voudrais ici m'arrêter, donc je le dis, sur la lecture que donne le Maharal de Prague de ce passage. Le Maharal de Prague dit que d'une part, on ne peut pas accuser David de crimes, et d'un autre côté, et or les crimes ne sont connus par où? De ce que nous savons que David aurait été assassin et aurait pris la femme de son prochain. D'où est-ce qu'on le saurait tout ça? Non, c'est écrit dans la Bible. Or, c'est cette même Bible qui nous dit que Dieu aimait David et qu'il est dit de lui, « Va Hachem Imo ». Dieu était toujours avec nous. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans la cohérence interne du texte. Et donc, dit le Maharal, c'est qu'il y avait une différence entre ce que David voulait faire et ce que Dieu l'a laissé faire. Et à ça, le Maharal dit quelque chose d'assez terrible. Il dit, en fait, David, il dit comme ça, « Lo haya ichpat lo ». Ça ne lui faisait rien que Bathsheba soit mariée et que Uriah ne soit pas rebelle. C'est-à-dire, il aurait quand même pris Bathsheba. Pourquoi? Pour des raisons peut-être mystiques, mais il l'aurait pris quand même. Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que la dynastie d'Israël, qui va diriger Israël, naisse d'un crime. Donc il a empêché David de faire le crime. Il a empêché David de faire le crime, c'est pour ça qu'il a arrangé que Bathsheba ait reçu son divorce et qu'il a arrangé que Uriah était coupable de révolte. Ça veut dire qu'il y a, dans la dynastie davidique, une sorte de providence particulière qui fait que c'est une famille qui est à l'abri des catastrophes morales, pourrait-on dire. Ça veut dire que dans cette famille-là, il y a une compétence pour les affaires de l'État qu'on ne trouve pas dans les autres familles d'Israël. Et là, je voudrais parler de deux incompétences. Celle des Hashmonaïm, les Hashmonaïm qui étaient des grands prêtres et qui ont pris le pouvoir au lieu de transmettre le pouvoir à la famille de David. Quel était le problème des Hashmonaïm? C'est qu'ils étaient des prêtres. Quand on est un prêtre, on voit l'État à travers la chose religieuse. C'est-à-dire, le grand prêtre, par définition, est intéressé par le culte. Et donc, les affaires de l'État, il n'y comprend pas grand-chose. Et comme il n'y comprend pas grand-chose, quand il veut diriger l'État, il fait appel aux Grecs. Et c'est les Grecs qui vont lui expliquer comment diriger l'État. Et ça a donné la décadence du royaume des Hashmonaïm. Il y a une autre incompétence, c'est celle de Ben-Gourion. Lui aussi, il a voulu prendre le pouvoir, il l'a pris d'ailleurs, et il n'y connaissait rien, il connaissait bien les affaires de l'État, mais il ne connaissait rien au judaïsme. Et quand on veut s'occuper des juifs, on fait des erreurs, si on ne sait pas que ce sont des juifs. C'est-à-dire, on peut s'imaginer qu'on dirige des Norvégiens, ou des Luxembourgeois, mais ce n'est pas des Luxembourgeois les juifs, ce sont des juifs. Donc si on ne sait pas que ce sont des juifs, alors on a un problème, et finalement ça entraîne également des décadences dont nous avons été les témoins de nos jours. Tandis que chez le roi David, il y a la compétence du fait qu'il sait que ce sont des juifs qu'il dirige, et il sait que ce n'est pas son affaire de s'occuper d'affaires cultuelles ou religieuses. C'est en tant que malchut qu'il doit agir, c'est en tant que malchut qu'il doit amener la présence de Dieu sur terre. Il y a un dernier point que je voudrais mettre en évidence à propos de la manière dont le roi David dirigeait l'État, c'était le respect qu'il avait pour ses ennemis politiques. L'ennemi politique numéro un du roi David, c'est le roi Shaoul, qui le précède. Alors que, bon, vous savez qu'il y a un grand principe enseigné par le grand maître de sciences politiques, Nicolas Machiavel, qui est que lorsque on est dans une situation où on peut abattre son ennemi politique qu'on ne le fait pas, on est coupable. C'est un crime contre la moralité politique. C'est souvent vrai, sauf en politique intérieure des Hébreux. En effet, nous voyons un grand principe de morale politique qui nous a enseigné par le roi David, c'est au moment où il pouvait se venger et tuer son ennemi qui le persécutait injustement, le roi Shaoul, il ne l'a pas fait parce qu'il était roi d'Israël. À tel point même que finalement, on a reproché à David d'avoir porté quand même une atteinte à Shaoul puisqu'il lui a coupé un pan de son manteau au lieu de le tuer. Et c'est pour ça que lorsqu'il était vieux, eh bien, il avait tellement froid que rien ne pouvait le réchauffer. Et donc, on voit ici également une conscience politique très élevée, non pas simplement par sentiment de charité entre frères d'Israël. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. On comprend que la force politique que l'on combat, même si on a raison, représente aussi quelque chose. Aux yeux de David, Shaoul représente quelque chose, et que si on élimine ce que Shaoul représente, eh bien la royauté de David ne peut pas également s'édifier. C'est aussi quelque chose que nous devons comprendre, étant donné que le public, le saint public qui est réuni ici dans cette souka, a souvent conscience qu'il a quelque chose à ajouter dans la conscience politique en Israël. Et il faut savoir qu'on ne peut bâtir quelque chose de sérieux que si on prend en considération les mérites des premières phases du sionisme, même si elles sont parfois dépassées par les événements et par les nécessités spirituelles de notre époque. Eh bien, je pense que nous avons fait donc ici un parcours assez important de ce que nous avons à apprendre du roi David. Peut-être que si ces choses-là étaient comprises par nos dirigeants, certaines options politiques auraient été différentes, je pense même aux événements de ces derniers jours. Mais enfin, on ne peut pas reprocher aux gens d'être ce qu'ils sont, d'être portés par les valeurs culturelles et morales qui leur ont été inculquées. Mais c'est à nous, au nom de la Torah, de prendre conscience des évolutions ultérieure de la moralité politique en Israël. Et je voudrais également avoir une petite pensée émue pour notre ami Gérald de Sananès, qui nous manque beaucoup et qui aurait dû être celui qui aurait ouvert cette soirée. Voilà, Chag Sameach.